Lénine, le 13 mai 1909, de l'attitude du Parti ouvrier à l'égard de la religion. La social-démocratie fait reposer toute sa conception du monde sur le socialisme scientifique, c'est-à-dire le marxisme. La base philosophique du marxisme, ainsi que l'ont proclamé maintes fois Marx et Engels, est le matérialisme dialectique, qui a pleinement fait sienne les traditions historiques du matérialisme du XVIIIe siècle en France et de Feuerbach, ouvrez la parenthèse, première moitié du XIXe siècle, fermez la parenthèse, en Allemagne. Matérialisme incontestablement athée, résolument hostile à toute religion. Rappelons que tout l'Anti-Düring d'Engels, dont le manuscrit a été lu par Marx, accuse le matérialiste et athée Düring, note de bas de page, Eugène Düring, 1833-1921, entre parenthèses, philosophe et économiste allemand, note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Rappelons que tout l'Anti-Düring d'Engels, dont le manuscrit a été lu par Marx, accuse le matérialiste et athée Düring de manquer de fermeté idéologique dans son matérialisme, de ménager des biais à la religion et à la philosophie religieuse. Rappelons que dans son ouvrage sur Ludwig Feuerbach, note de bas de page, Ludwig Feuerbach, 1814-1888 entre parenthèses, philosophe matérialiste allemand, disciple de Hegel. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. Rappelons que dans son ouvrage sur Ludwig Feuerbach, Engels lui reproche d'avoir combattu la religion, non pas dans le but de la détruire, mais dans celui de la rénover, d'inventer une religion nouvelle, élevée entre guillemets, etc. Ouvrez les guillemets. La religion est l'opium du peuple, fermez les guillemets. Cette sentence de Marx constitue la pierre angulaire de toute la conception marxiste en matière de religion. Religions et églises modernes, organisations religieuses de toutes sortes, le marxisme les considère toujours comme des organes de réaction bourgeoise, servant à défendre l'exploitation et à abrutir la classe ouvrière. Et cependant, Engels a condamné maintes fois les tentatives de ceux qui, désireux de se montrer « plus à gauche » entre guillemets, ou « plus révolutionnaire » entre guillemets, que les social-démocrates, voulait introduire dans le programme du Parti ouvrier la franche reconnaissance de l'athéisme dans le sens d'une déclaration de guerre à la religion. En 1874, parlant du fameux manifeste des réfugiés de la Commune, des blanquistes émigrés à Londres, Engels traite de sottise leur tapageuse déclaration de guerre à la religion. Il affirme que cette déclaration de guerre est le meilleur moyen d'aviver l'intérêt pour la religion et d'enrayer son dépérissement effectif. Engels reproche aux blanquistes de ne pas comprendre que seule la lutte de classe des masses ouvrières, amenant les plus larges couches du prolétariat à pratiquer à fond l'action sociale, consciente et révolutionnaire, peut libérer en fait les masses opprimées du joug de la religion, et que proclamer la guerre à la religion comme tâche politique du Parti ouvrier n'est qu'une phrase anarchiste. En 1877, dans l'Anti-Düring, s'attaquant violemment aux moindres concessions de Düring, philosophe, à l'idéalisme et à la religion, Engels condamne avec non moins de force l'idée pseudo-révolutionnaire de Düring relative à l'interdiction de la religion dans la société socialiste. Déclarer une telle guerre à la religion, c'est, dit Engels, ouvrez les guillemets, être plus Bismarck que Bismarck lui-même, fermez les guillemets. C'est-à-dire reprendre la sottise de la lutte bismarckienne contre les cléricaux, ouvrez la parenthèse, la fameuse, ouvrez les guillemets, lutte pour la culture, fermez les guillemets, le Kulturkampf, c'est-à-dire la lutte que Bismarck mena après 1870 contre le parti catholique allemand, le parti du centre, entre guillemets, au moyen de persécutions policières dirigées contre le catholicisme, fermez la parenthèse. Par cette lutte, Bismarck n'a fait que nuire à la cause de la véritable culture. En mettant au premier plan les divisions religieuses, au lieu des divisions politiques, il a fait dévier l'attention de certaines couches de la classe ouvrière et de la démocratie, des tâches quotidiennes que comportent la lutte de classe et la lutte révolutionnaire, vers l'anticléricalisme le plus superficiel et le plus bourgeoisement mensonger. En accusant Düring, qui désirait se montrer ultra-révolutionnaire, de vouloir reprendre sous une autre forme cette même bêtise de Bismarck, Engels exigeait que le parti ouvrier travaillât patiemment à l'œuvre d'organisation et d'éducation du prolétariat, œuvre aboutissant au dépérissement de la religion, au lieu de se jeter dans les aventures d'une guerre politique contre la religion. Ce point de vue est entré dans la chair et dans le sang de la social-démocratie allemande, qui s'est prononcée, par exemple, en faveur de la liberté pour les jésuites, pour leur admission en Allemagne, pour l'abolition de toute mesure de lutte policière contre telle ou pour telle religion. Ouvrez les guillemets. Proclamer la religion une affaire privée, fermez les guillemets. Ce point célèbre du programme d'Erfurt, 1891, entre parenthèses, note de bas de page. Le programme d'Erfurt du Parti social-démocrate allemand a été adopté en 1891 au Congrès d'Erfurt. Ouvrez la parenthèse, voir Marx et Engels, critique des programmes de Gotha et d'Erfurt, bureau d'édition, 1933, 3 francs, fermez la parenthèse, note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. Proclamer la religion une affaire privée, fermez les guillemets. Ce point célèbre du programme d'Erfurt, 1891, entre parenthèses, a consacré cette tactique politique de la social-démocratie. Cette tactique est devenue désormais routinière. Elle a engendré, dès à présent, une nouvelle formation du marxisme en sens inverse, dans le sens de l'opportunisme. On s'est mis à interpréter les principes du programme d'Erfurt en ce sens que nous, social-démocrates, notre parti considère la religion comme une affaire privée, que pour nous, social-démocrates, pour nous en tant que parti, la religion est une affaire privée. Sans engager une polémique ouverte contre ce point de vue opportuniste, Engels a jugé nécessaire, après 1890, de s'élever résolument contre lui, non sous forme de polémique, mais sous une forme positive. Or Engels l'a fait sous la forme d'une déclaration qu'il a soulignée à dessein, disant que la social-démocratie considère la religion comme une affaire privée vis-à-vis de l'État, mais non vis-à-vis d'elle-même. Non vis-à-vis du marxisme, non vis-à-vis du parti ouvrier. Note de bas de page. Voici ce que disait Engels en 1891 dans la préface à la guerre civile en France. Ouvrez les guillemets. La Commune déclara de telles réformes que la bourgeoisie républicaine avait abandonnées uniquement par lâcheté, mais qui étaient, pour l'action de la classe ouvrière, une base, comme par exemple l'application du principe suivant lequel, pour l'État, La religion est chose privée. Fermez les guillemets. Ouvrir la parenthèse. Voir Marx. La guerre civile en France. B.E. 1933. Nouvelle édition préparée par l'Institut Marx Engels Lénine à Moscou. Fermez la parenthèse. Note de la rédaction. Note de lecture. L'édition de cette préface au même BE, ouvrez la parenthèse, Bureau des éditions, fermez la parenthèse, mais en 1936, trouvée sur Internet sur le portail Pandore de la Maison des sciences de l'homme de Dijon, ouvrez la parenthèse, grande édition Marx Engels, fermez la parenthèse, présente une traduction plus claire que voici. Ouvrez les guillemets. Ouvrez le crochet. La commune décréta, fermez le crochet, des réformes que la bourgeoisie républicaine avait négligées rien que par lâcheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de la formule suivant laquelle, vis-à-vis de l'État, la religion n'est qu'une affaire privée. Fermez les guillemets. Note de la donneuse de voix. Fin de la note de lecture. Fin de la note de bas de page. Or, Engels l'a fait sous la forme d'une déclaration qu'il a soulignée à dessein, disant que la social-démocratie considère la religion comme une affaire privée vis-à-vis de l'État, mais non vis-à-vis d'elle-même, non vis-à-vis du marxisme, non vis-à-vis du parti ouvrier. Telle est l'histoire apparente des interventions de Marx et d'Engels en matière de religion. Pour ceux qui ne savent ou ne veulent pas réfléchir, cette histoire est un nœud d'absurdes contradictions et d'hésitations du marxisme. Une sorte de méli-mélo formé d'athéisme conséquent, entre guillemets, et de complaisance, entre guillemets, pour la religion. Une sorte de flottement, sans principe, entre guillemets, entre la guerre révolutionnaire contre Dieu et le désir peureux de « complaire » entre guillemets aux ouvriers croyants, la crainte de les effaroucher, etc. Dans la littérature des phraseurs anarchistes, on peut trouver nombre de gestes du même goût contre le marxisme. Mais quiconque est tant soit peu capable d'envisager le marxisme de façon sérieuse, d'en méditer les bases philosophiques, et l'expérience de la social-démocratie internationale, verra aisément que la tactique du marxisme à l'égard de la religion est profondément conséquente et mûrement établie par Marx et Engels, que ce que les dilettantes ou les ignorants prennent pour des flottements n'est que la résultante directe et inéluctable du matérialisme dialectique. Ce serait une grosse erreur de croire que la modération, entre guillemets, apparente du marxisme à l'égard de la religion s'explique par des considérations dites « tactiques », entre guillemets, comme le désir de « ne pas effaroucher », entre guillemets, etc. Au contraire, la ligne politique du marxisme dans cette question également est indissolublement liée à ses bases philosophiques. Le marxisme est le matérialisme. Note de lecture. Dans la Marxist Internet Archive, MIA, entre parenthèses, nous trouvons la traduction suivante de ce passage. Ouvrez les guillemets. Le marxisme est un matérialisme. Fermez les guillemets. Note de la donneuse de voix. Fin de la note de lecture. À ce titre, il est aussi implacablement hostile à la religion que le matérialisme des encyclopédistes. Note de bas de page. Les encyclopédistes. On désigne sous ce nom les auteurs de la fameuse encyclopédie française, ouvrez les parenthèses, ou dictionnaire scientifique, fermez la parenthèse, où l'on traitait de toutes les connaissances humaines dans un esprit matérialiste et qui parut en 1751-1772, sous la direction de Diderot et de D'Alembert. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. Le marxisme est le matérialisme. À ce titre, il est aussi implacablement hostile à la religion que le matérialisme des encyclopédistes du XVIIIe siècle ou le matérialisme de Feuerbach. Voilà qui est indéniable. Mais le matérialisme dialectique de Marx et d'Engels va plus loin que les encyclopédistes et que Feuerbach dans l'application de la philosophie matérialiste au domaine de l'histoire, au domaine des sciences sociales. Nous devons combattre la religion. C'est l'ABC de tout le matérialisme et partant du marxisme. Mais le marxisme n'est pas un matérialisme qui s'en tient à l'ABC. Le marxisme va plus loin. Il dit « Il faut savoir lutter contre la religion. » Or, pour cela, il faut expliquer, dans le sens matérialiste, la source de la foi et de la religion des masses. On ne doit pas confiner la lutte contre la religion dans une prédication idéologique abstraite. On ne doit pas la réduire à une prédication de cette nature. Il faut lier cette lutte à la pratique concrète du mouvement de classe visant à faire disparaître les racines sociales de la religion. Pourquoi la religion se maintient-elle dans les couches arriérées du prolétariat des villes, dans les vastes couches du demi-prolétariat, ainsi que dans la masse des paysans? Par suite de l'ignorance du peuple, répond le progressiste bourgeois, le radical ou le matérialiste bourgeois. Et donc, à bas la religion, vive l'athéisme. La diffusion des idées athées est notre tâche principale. Les marxistes disent « c'est faux ». Ce point de vue traduit l'idée d'une, ouvrez les guillemets, « lutte pour la culture pure », fermez les guillemets, superficielle, bourgeoisement bornée. Note de lecture. Voici la traduction de la MIA, ouvrez les guillemets. Ce point de vue traduit l'idée superficielle, étroitement bourgeoise, d'une action de la culture par elle-même. Fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, consultez le 27 novembre 2016, fermez la parenthèse, note de la donneuse de voix, fin de la note de lecture. Un tel point de vue n'explique pas assez à fond. N'explique pas dans un sens matérialiste, mais dans un sens idéaliste, les racines de la religion. Dans les pays capitalistes modernes, ces racines sont surtout sociales. La dépression sociale des masses travailleuses, leur apparente impuissance totale devant les forces aveugles du capitalisme, qui cause chaque jour et à toute heure mille fois plus de plus horribles souffrances, de plus sauvages tourments aux travailleurs du rang que tous les événements exceptionnels tels que guerre, tremblements de terre, etc. C'est là qu'il faut rechercher aujourd'hui les racines les plus profondes de la religion. Ouvrez les guillemets. La peur a créé les dieux. Note de bas de page. Vers tiré d'un poète latin par L. Feuerbach dans la leçon 4 de son « Essence de la religion ». Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Ouvrez les guillemets. « La peur a créé les dieux », fermez les guillemets. La peur devant la force aveugle du capital, aveugle parce que ne pouvant être prévues les masses populaires, qui, à chaque instant de la vie du prolétaire et du petit patron, menace de lui apporter et lui apporte la ruine subite, entre guillemets, inattendue, entre guillemets, accidentelle, entre guillemets, qui cause sa perte, qui le transforme en mendiant, en pauvre, en prostitué, le réduit à mourir de faim. Voilà les racines de la religion moderne que le matérialisme doit avoir en vue, avant tout et par-dessus tout, s'il ne veut pas demeurer un matérialiste de classe préparatoire. Note de bas de page. Dans un article du Social-Démocrate, Lénine écrivit pendant la guerre, 26 juillet 1915, entre parenthèses, ouvrez les guillemets. La guerre provoquera à coup sûr dans les masses des sentiments impétueux qui romperont l'état habituel de psychologie du sommeil. Trois petits points. Quels sont les principaux courants de ces sentiments impétueux? Premièrement, la crainte et le désespoir. De là, l'affermissement de la religion. De nouveau, les églises commencent à se remplir. Exultent les réactionnaires. Ouvrez les guillemets. Là où il y a souffrance, il y a religion. Fermez les guillemets. Disait l'ultra-réactionnaire Barès. Et il a raison. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Lénine. Œuvre complète, première édition russe, tome 18, page 26, fermez la parenthèse. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Aucun livre de vulgarisation n'expurgera la religion des masses abruties par le bagne capitaliste, assujetties aux forces destructives aveugles du capitalisme. Aussi longtemps que ces masses n'auront pas appris à lutter de façon cohérente, organisée, systématique et consciente, contre ses racines de la religion, contre le règne du capital, sous toutes ses formes. Est-ce à dire que le livre de vulgarisation contre la religion soit nuisible ou inutile? Non. La conclusion qui s'impose est tout autre. C'est que la propagande athée de la social-démocratie doit être soumise à sa tâche fondamentale, à savoir au développement de la lutte de classe des masses exploitées contre les exploiteurs. Un homme qui n'a pas médité sur les fondements du matérialisme dialectique, c'est-à-dire sur la philosophie de Marx et d'Engels, peut ne pas comprendre, ouvrez la parenthèse, ou du moins ne pas comprendre du premier coup, fermez les parenthèses, cette situation. Comment subordonner la propagande idéologique, la diffusion de certaines idées, la lutte contre l'ennemi de la culture et du progrès qui dure depuis des millénaires, ouvrez les parenthèses, c'est-à-dire contre la religion, fermez la parenthèse, à la lutte de classe, c'est-à-dire à la lutte pour des objectifs pratiques déterminés dans le domaine économique et politique? Cette objection est du nombre de celles que l'on fait couramment contre le marxisme. Elle témoigne d'une complète méconnaissance de la dialectique marxiste. Ce qui trouble ceux qui font ces objections, c'est la vivante contradiction de la réalité vivante, c'est-à-dire une contradiction dialectique non verbale ni inventée. Séparée par une barrière absolue, infranchissable, la propagande dialectique de l'athéisme, c'est-à-dire la destruction des croyances religieuses chez certaines couches du prolétariat, d'avec le succès, la marche, les conditions de lutte de classe de ces couches, c'est raisonner sur un mode qui n'est pas dialectique. C'est faire une barrière absolue de ce qui est une barrière mobile, relative. C'est rompre violemment ce qui est indissolublement lié à la réalité vivante. Prenons un exemple. Le prolétariat d'une région ou d'une branche d'industrie est formé, disons, d'une couche de social-démocrates assez éclairés, qui sont, bien entendu, athées, et d'ouvriers assez arriérés, ayant encore des attaches à la campagne et au sein de la paysannerie, croyant en Dieu, fréquentant l'église ou même soumise à l'influence directe du prêtre de l'endroit qui, admettons, est en passe de fonder un syndicat ouvrier chrétien. Supposons encore que la lutte économique dans cette localité ait abouti à la grève. Un marxiste est forcément tenu de placer le succès du mouvement gréviste au premier plan, de réagir résolument contre la division des ouvriers dans cette lutte entre athées et chrétiens. De combattre résolument cette division. Dans ces circonstances, la propagande athée peut s'avérer superflue et nuisible, non pas du point de vue sentimental, par crainte d'effaroucher les couches retardataires, de perdre un mandat aux élections, etc., mais du point de vue du progrès réel de la lutte de classe qui, dans les conditions de la société capitaliste moderne, amènera les ouvriers chrétiens à la social-démocratie et à l'athélisme, 100 fois mieux qu'un sermon athée tout court. Dans un tel moment et dans ces conditions, le propagateur de l'athéisme ferait le jeu du pope, de tous les popes, qui ne désirent rien autant que remplacer la division des ouvriers, d'après leur participation à la grève, par la division d'après leur foi en Dieu. L'anarchiste, qui prêcherait la guerre contre Dieu à tout prix, aiderait en fait les popes et la bourgeoisie, ouvrez la parenthèse, comme du reste les anarchistes aident toujours en fait la bourgeoisie, fermez la parenthèse. Le marxiste doit être matérialiste, c'est-à-dire ennemi de la religion. Mais un matérialiste dialectique, c'est-à-dire envisageant la lutte contre la religion, non pas de façon abstraite, non pas sur le terrain d'abstraction purement théorique d'une propagande toujours égale à elle-même, mais de façon concrète, sur le terrain de la lutte de classe réellement en marche, et qui éduque les masses plus que tout et mieux que tout. Le marxiste doit savoir tenir compte de toute la situation concrète. Il doit toujours savoir marquer la limite entre l'anarchiste et l'opportuniste. Ouvrez la parenthèse. Cette limite est relative, mobile, changeante, mais elle existe. Fermez la parenthèse. Ne tomber ni dans le révolutionnarisme, entre guillemets, abstrait, verbal et pratiquement vide de l'anarchiste, ni dans le philistinisme et l'opportunisme du petit bourgeois ou de l'intellectuel libéral qui redoute de combattre la religion, oublie la mission qui lui incombe, s'accommode de la foi en Dieu, s'inspire non pas des intérêts de la lutte de classe, mais d'un mesquin et misérable petit calcul. Ne pas vexer, ne pas repousser, ne pas effaroucher. D'une maxime sage entre toutes, ouvrez les guillemets, vivre et laisser vivre les autres, fermez les guillemets, et ainsi de suite. C'est de ce point de vue qu'il faut résoudre toutes les questions privées touchant l'attitude de la social-démocratie vis-à-vis de la religion. Par exemple, on pose souvent la question de savoir si un prêtre peut être membre du Parti social-démocrate. À cette question, on répond d'ordinaire par l'affirmative, sans réserve aucune, en invoquant l'expérience des partis social-démocrates européens. Mais cette expérience est née non seulement de l'adaptation du marxisme au mouvement ouvrier, mais aussi des conditions historiques particulières de l'Occident, inexistantes en Russie. Ouvrez la parenthèse. Nous parlons plus bas de ces conditions, fermez la parenthèse. De sorte qu'ici, une réponse absolument affirmative est fausse. On ne saurait une fois pour toutes, et quelles que soient les conditions, proclamer que les prêtres ne peuvent être membres du Parti social-démocrate. Mais on ne saurait davantage, une fois pour toutes, faire jouer l'inverse. Si un prêtre vient à nous pour se livrer à un travail politique commun et qu'il s'acquitte consciemment de sa tâche sans s'élever contre le programme du parti, nous pouvons l'admettre dans les rangs de la social-démocratie, car la contradiction de l'esprit et des bases de notre programme avec les convictions religieuses du prêtre pourrait, dans ces conditions, demeurer sa contradiction à lui, le concernant personnellement. Quant à faire subir à ses membres un examen pour savoir s'il y a chez eux absence de contradiction entre leurs opinions et le programme du parti, une organisation politique ne peut s'y livrer. Mais il va de soi qu'un cas analogue ne pourrait être qu'une rare exception, même en Europe. En Russie, à plus forte raison. Il est tout à fait improbable. Et si, par exemple, un prêtre entrait au Parti social-démocrate et engageait à l'intérieur de ce parti, comme action principale et presque exclusive, la propagande active de conception religieuse, le parti devrait nécessairement l'exclure de son sein. Nous devons non seulement admettre, mais travailler à attirer au Parti social-démocrate tous les ouvriers qui conservent encore la foi en Dieu. Nous sommes absolument contre la moindre atteinte portée à leurs convictions religieuses, mais nous les attirons pour les éduquer dans l'esprit de notre programme, et non pour qu'ils combattent activement ce dernier. Nous autorisons à l'intérieur du parti la liberté d'opinion, mais seulement dans certaines limites, déterminées par la liberté de groupement. Nous ne sommes pas tenus de marcher la main dans la main avec les propagateurs actifs de points de vue écartés par la majorité du parti. Autre exemple. Peut-on condamner à titre égal et en tout état de cause les membres du Parti social-démocrate pour avoir déclaré, ouvrez les guillemets, « le socialisme est ma religion » et pour avoir diffusé des points de vue conformes à cette déclaration? Non. L'écart vis-à-vis du marxisme, ouvrez la parenthèse, et partant du socialisme, fermez la parenthèse, est ici incontestable. Mais la portée de cet écart, son importance relative, pour ainsi dire, peuvent différer suivant les conditions. Si l'agitateur ou l'homme qui intervient devant la masse ouvrière s'exprime ainsi pour être mieux compris, pour amorcer son exposé, pour souligner avec plus de réalité ses opinions dans les termes les plus coutumiers pour la masse inculte, c'est une chose. Si un écrivain commence à prêcher, ouvrez les guillemets, l'édification de la divinité, fermez les guillemets, ou le, ouvrez les guillemets, socialisme édificateur de Dieu, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, dans le sens, par exemple, de nos Lunacharsky, note de bas de page, Lunacharsky, militant et écrivain bolchévique, au cours des années 1909-1911, avec Bogdanov, il tenta d'unifier le marxisme avec l'idée de, ouvrez les guillemets, l'édification de Dieu, fermez les guillemets, tentative résolument combattue alors par Lénine. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Donc si un écrivain commence à prêcher, ouvrez les guillemets, l'édification de la divinité, fermez les guillemets, ou le, ouvrez les guillemets, socialisme édificateur de Dieu, fermez les guillemets, ouvrez la parenthèse, dans le sens par exemple de nos Lunacharsky et compagnie, fermez les guillemets, c'en est une autre. Autant la condamnation dans le premier cas pourrait être une chicane, ou même une atteinte déplacée à la liberté d'agitation, à la liberté d'une action pédagogique, entre guillemets, autant, dans le second cas, la condamnation par le parti est indispensable et obligatoire. La thèse, ouvrez les guillemets, le socialisme est une religion, fermez les guillemets, est pour les uns une forme de transition de la religion au socialisme, pour les autres, du socialisme à la religion. Passons maintenant aux conditions qui ont donné lieu en Occident à l'interprétation opportuniste de la thèse, ouvrez les guillemets, la religion est une affaire privée, fermez les guillemets. Évidemment, il y a là l'influence de causes générales qui enfantent l'opportunisme en général, comme de sacrifier les intérêts fondamentaux du mouvement ouvrier à des avantages momentanés. Le parti du prolétariat exige que l'État proclame la religion affaire privée, sans pour cela le moins du monde considérer comme une affaire privée, entre guillemets, la lutte contre l'opium du peuple, la lutte contre les superstitions religieuses, etc. Les opportunistes déforment les choses de façon à faire croire que le Parti social-démocrate tenait la religion pour une affaire privée. Mais contre la déformation opportuniste ordinaire, ouvrez la parenthèse, qui n'a pas du tout été élucidée dans les débats suscités par notre fraction de la Douma autour de l'intervention sur la religion, fermez la parenthèse, il est des conditions historiques particulières qui ont donné issue, si l'on peut dire, à l'excessive indifférence actuelle des social-démocrates européens en matière de religion. Note de lecture. Voici la traduction de ce passage proposé dans l'édition de la MIA. Ouvrez les guillemets. Mais, outre la déformation opportuniste ordinaire, ouvrez la parenthèse, qui n'a pas du tout été élucidée dans les débats suscités par notre groupe parlementaire autour de l'intervention sur la religion, fermez la parenthèse, il est des conditions historiques particulières qui ont provoqué actuellement l'indifférence, si l'on peut dire excessive, des social-démocrates européens envers la question de la religion. Fermez les guillemets, note de la donneuse de voix, fin de la note de lecture. Ces conditions sont de deux ordres. En premier lieu, la lutte contre la religion est la tâche historique de la bourgeoisie révolutionnaire. Or, en Occident, cette tâche fut, ou était, entre parenthèses, réalisée pour une part considérable par la démocratie bourgeoise à l'époque de ses révolutions ou de ses attaques contre les féodalismes et l'esprit médiéval. En France, comme en Allemagne, il y a une tradition de guerre bourgeoise contre la religion engagée bien avant le socialisme. Ouvrez la parenthèse. Encyclopédiste Feuerbach, fermez la parenthèse. En Russie, conformément aux conditions de notre révolution bourgeoise démocratique, cette tâche aussi échoua presque entièrement à la classe ouvrière. À cet égard, la démocratie petite bourgeoise, populiste entre parenthèses, note de bas de page, narodnik, populiste entre parenthèses, dérivé du mot russe narod, peuple. Au commencement des années 70 du siècle passé, les intellectuels révolutionnaires russes, ouvrez les guillemets, allaient dans le peuple, fermez les guillemets, pour y propager les idées révolutionnaires. Ils pensaient qu'en Russie était possible un développement non capitaliste sans la prolétarisation des masses. Cette idéologie antimarxiste de petits bourgeois révolutionnaires que l'on a désignée du nom de populisme est devenue celle des socialistes révolutionnaires, des socialistes populaires et des autres groupes et sous-groupes de cet acabit. Cette tendance a plus tard dégénéré en une tendance franchement contre-révolutionnaire. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. À cet égard, la démocratie petite bourgeoise, populiste, entre parenthèses, chez nous, n'a pas fait beaucoup trop, comme le pensent les néo-cadets sans noirs ou les sans noirs cadets des Véki, note de bas de page, Véki, jalon, entre parenthèses. Recueil publié en 1909 par un groupe d'intellectuels bourgeois tombés dans le mysticisme et dans l'idéalisme philosophique, et qui déploraient leur attitude révolutionnaire lors de la révolution de 1905. Ce groupe réunissait également les ex-marxistes Struve, Bulgakov et d'autres. Note de la rédaction. Fin de la note de bas de page. À cet égard donc, la démocratie petite bourgeoise, populiste entre parenthèses, chez nous, n'a pas fait beaucoup trop, ouvrez la parenthèse, comme le pensent les néo-cadets sans noirs ou les sans noirs cadets des Véki, fermez la parenthèse, mais trop peu comparativement à l'Europe. D'un autre côté, la tradition de la guerre bourgeoise contre la religion a créé en Europe une déformation spécifiquement bourgeoise de cette guerre par l'anarchisme qui, comme les marxistes l'ont depuis longtemps et maintes fois expliqué, s'en tient à la conception bourgeoise du monde, malgré toute la rage, entre guillemets, de ses attaques contre la bourgeoisie. Les anarchistes et les blanquistes des pays romans, Most, note de bas de page, Most, 1846-1900, entre parenthèses, social-démocrate allemand bien connu des années 70, député au Reichstag, au temps de la loi contre les socialistes, il évolua vers l'anarchie, émigra en Angleterre, se rendit ensuite en Amérique où il se livra à la propagande des méthodes de lutte les plus violentes. Actes terroristes, expropriation, etc. Note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Donc les anarchistes et les blanquistes des pays romans, Most, ouvrez la parenthèse, qui fut entre autres l'élève de During, fermez la parenthèse, et compagnie en Allemagne, les anarchistes d'après 1880 en Autriche, ont poussé jusqu'au net plus ultra, note de bas de page, jusqu'à l'extrême, note de la rédaction, fin de la note de bas de page, la phrase révolutionnaire dans la lutte contre la religion. Rien d'étonnant que maintenant les social-démocrates européens forcent la note lancée par les anarchistes. Cela se comprend et c'est légitime dans une certaine mesure. Mais nous autres social-démocrates russes ne devons pas oublier les conditions historiques particulières de l'Occident. En second lieu, en Occident, après la fin des révolutions bourgeoises nationales, après l'introduction d'une liberté plus ou moins complète de conscience, la question de la lutte démocratique contre la religion était, historiquement, refoulée au second plan par la lutte que menait la démocratie bourgeoise contre le socialisme, au point que les gouvernements bourgeois essayaient, à dessein, de détourner l'attention des masses du socialisme en organisant une campagne entre guillemets quasi-libérale contre le cléricalisme. Le Kulturkampf, note de bas de page, lutte pour la culture, note de la rédaction, fin de la note de bas de page. Le Kulturkampf en Allemagne et la lutte des républicains bourgeois contre le cléricalisme en France ont revêtu un caractère identique. L'anticléricalisme bourgeois, comme moyen de détourner l'attention des masses ouvrières du socialisme, voilà ce qui, en Occident, a précédé la diffusion parmi les social-démocrates de leur actuelle « indifférence » entre guillemets vis-à-vis de la lutte contre la religion. Là encore, cela se conçoit et c'est légitime, car à l'anticléricalisme bourgeois et bismarckien, les social-démocrates devaient opposer précisément la subordination de la lutte contre la religion à la lutte pour le socialisme. En Russie, les conditions sont tout autres. Le prolétariat est le chef de notre révolution bourgeoise démocratique. Son parti est le chef idéologique de la lutte contre toute féodalité, y compris la vieille religion officielle, et toutes les tentatives de la rénover ou de l'établir à nouveau d'une façon différente, etc. C'est pourquoi, si Engels corrigeait en termes relativement doux l'opportunisme des social-démocrates allemands, qui substituaient à la revendication du parti ouvrier exigeant que l'État proclamât la religion affaire privée, la proclamation de la religion affaire privée pour les social-démocrates eux-mêmes et pour le parti social-démocrate, on conçoit que la reprise de cette déformation allemande par les opportunistes russes aurait mérité une condamnation 100 fois plus violente de la part d'Engels. En déclarant du haut de la tribune parlementaire que la religion est l'opium du peuple, notre fraction a agi de façon parfaitement juste. Elle a créé de la sorte un précédent qui doit servir de base à toutes les interventions des social-démocrates russes sur la question religieuse. Fallait-il aller plus loin, développer plus à fond les conclusions hâtées ? Nous ne le croyons pas. car cela menacerait de porter le parti politique du prolétariat à exagérer la lutte contre la religion. Cela conduirait à effacer la ligne de démarcation entre la lutte bourgeoise et socialiste contre la religion. La première tâche dont la fraction social-démocrate à la Douma ultra-réactionnaire devait s'acquitter a été remplie avec honneur. La deuxième, et c'est tout juste si ce n'est pas l'essentiel pour la social-démocratie, était d'expliquer le rôle de classe joué par l'Église et le clergé pour soutenir le gouvernement ultra-réactionnaire et la bourgeoisie dans sa lutte contre la classe ouvrière. Elle aussi a été accomplie avec honneur. Certes, il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, et les interventions ultérieures des social-démocrates sauront trouver de quoi compléter le discours du camarade Surkov. Mais il ne reste pas moins que son discours a été excellent, et sa diffusion par toutes les organisations du parti est le premier devoir de notre parti. La troisième tâche consistait à expliquer de la façon la plus précise le sens exact de la thèse, si souvent dénaturée par les opportunistes allemands, ouvrez les guillemets, proclamation de la religion comme affaire privée, fermez les guillemets. Prolétarie, ouvrez la parenthèse, le prolétaire, fermez la parenthèse, numéro 45, 26/13 mai 1909.